L'oreille indiscrète, bonjour, bienvenue à tous et à toutes dans cette émission. Nous allons parler du compteur Linky mardi 31 janvier à Jaujac aura lieu une assemblée citoyenne d'information et d'échange organisée par un collectif Stop Linky 07. Linky, c'est le nom donné à des compteurs électriques nouvelle génération. On les appelle aussi compteurs communicants ou encore compteurs intelligents. Bref, ces compteurs ont commencé à être installés en France par ERDF en remplacement des anciens compteurs. Donc on va parler aujourd'hui de ces compteurs, de comment ils fonctionnent, de la loi de transition énergétique d'août 2015 avec laquelle ils ont un lien. Nous parlerons bien sûr de risques sanitaires, de vie privée aussi. Nous parlerons de ce qu'est être électrosensible avec le témoignage d'une personne, Camille, qui vit en Ardèche. Nous parlerons aussi de courants porteurs en ligne. Bref, c'est un vaste sujet. Nous allons commencer à aborder quelques grandes lignes de ce sujet aujourd'hui en compagnie de deux membres de ce collectif Stop Linky 07, Georges Sauret. Bonjour.
Bonjour, merci de votre accueil.
Et Frédéric Roux, bonjour.
Bonjour.
Alors peut-être qu'on peut commencer avec quelques mots justement sur ce collectif Stop Linky 07, un petit historique, une petite explication du pourquoi ce collectif.
Bien sûr, bien volontiers, oui. Nous sommes des habitants de ce beau village de Jaujac, que vous connaissez peut-être, où les personnes communiquent, mais elles communiquent naturellement. Hein, voilà. Donc on est un certain nombre à avoir été alertés par des informations pharaoniques. Hein, le remplacement sous couvert de la loi de transition énergétique, vous l'avez rappelé, par Enedis, hein, c'est ex-ERDF, hein, de 35 millions de compteurs actuels, par des lignes qui, autant pour l'électricité, hein, il y a autant pour les compteurs d'eau, 35 millions de compteurs aussi, et 11 millions de compteurs pour le gaz. Ce qui fait au total 81 millions de remplacements. Ces nouveaux compteurs sont dits communicants. Par contre, on utilise le terme intelligent, mais c'est Enedis qui utilise ça. C'est nous qui sommes intelligents, pas les compteurs. Hein, voilà. Bon, alors donc, on est une douzaine de personnes actives, contrastées, chaleureuses, mais qui ont fait un gros travail de recherche. Hein, c'est pas évident, très argumenté. Et notre évidence première, c'est d'informer. Hein, c'est d'abord que les gens puissent savoir de quoi il s'agit, au-delà des discours médiatiques qui sont souvent lénifiants. Hein, voilà. Alors, vous avez parlé de notre assemblée citoyenne. C'est super. Quelques personnes ont trouvé notre flyer un petit peu partisan. Alors, ça me permet de préciser une chose. Au-delà du terme partisan, qui est souvent péjoratif, et qui évoque un parti pris inspiré par un esprit de parti, ici, il n'y a pas de parti. Hein. Il ne s'agit pas de question de parti. Hein. Seulement des citoyens responsables qui s'organisent face à ce qu'ils savent désormais comme une agression. Voilà, et on va essayer de développer ça avec Frédéric.
Alors, pour les auditeurs qui ne sauraient pas du tout de quoi il s'agit, on va expliquer justement ce que c'est que ce compteur Linky, que l'on dit donc communicant. Comment ça fonctionne un compteur Linky par rapport à un compteur classique, on va dire.
Alors, sans rentrer trop dans le détail, on le fera à l'Assemblée, hein, mais il faut savoir que dans chaque logement, dans toute la France, il y aura un compteur Linky. Toute la France, chaque logement. Hein. Ce Linky, il va à intervalles réguliers, et tout au long de la journée, il va récupérer des données sur votre installation électrique qui correspondent à votre manière de vivre. Hein. Il utilise pour ça ce qu'on appelle un courant porteur en ligne, c'est-à-dire un courant haute fréquence, entre 60 et 90 000 Hz, rien à voir avec le 50 Hz des appartements, qui va être superposé à ce 50 Hz. Et c'est ça qui pose problème. Votre circuit qui n'est pas blindé, il n'est pas prévu pour. Il va devenir beaucoup plus rayonnant dans l'appartement. Donc déjà, à partir de là, on a une augmentation des ondes électromagnétiques. De plus, il sera équipé d'un émetteur radio. Cet émetteur radio, grâce auquel des objets pourront se connecter. Et c'est un émetteur radio, donc avec des radiofréquences. là encore, on a une pollution électromagnétique. Et enfin, il pourra être équipé aussi d'un afficheur déporté. C'est un boîtier écran, en fait, hein, avec un émetteur de type Wi-Fi, hein, pour être rapide, afin que le consommateur puisse avoir un visuel en temps réel, voilà, de sa consommation, sans passer par son ordinateur. Hein. C'est pratique, hein, on va être toute la journée fixé sur le compteur. Alors, regardez, est-ce que je consomme trop, est-ce que je consomme moins,
Et ce sont les arguments de RDF, d'ailleurs, en fait, parce que j'imagine qu'ils ont des arguments quand même pour installer et puis pour avoir fait... passer ces compteurs dans une loi dont on va parler ensuite. Les arguments, c'est à la fois de pouvoir connaître, que chaque usager puisse connaître sa consommation, et par là même, de pouvoir faire des économies d'énergie, j'imagine. Non, c'est ça un peu
Les économies d'énergie, si vous voulez bien, on en reparlera. Mais connaître sa consommation, pour l'instant, les usagers, ils connaissent leur consommation.
Mais je ne parle pas de ça, je parle des arguments de...
Oui, les arguments de l'édite.
Quels sont les arguments
C'est ça, c'est pour les gens, vous allez connaître votre consommation, donc vous allez pouvoir faire des économies vous-même. Etc. On va pouvoir procéder à différentes interventions comme des effacements, etc. Il y a tout un discours qui correspond à qui correspond pas à une réalité. On verra pourquoi par la suite. Hein. Ce qui est important, moi, là où je voudrais mettre l'accent, c'est qu'il y a trois sources de rayonnement dans l'appartement et que le compteur Linky a pour objectif de récupérer des données.
On en parlera, oui.
Ouais, de
consommation, entre guillemets, quoi.
Ouais, et puis, si vous voulez bien, là, on a trois sources intérieures d'ondes électromagnétiques, mais c'est tout un système. Les données qui vont être récupérées, ils vont être transmises à des concentrateurs, hein, dont seront équipés tous les postes de transformation EDF. Ça veut dire qu'il y aura des antennes relais supplémentaires, à hauteur d'homme, 740 000 en France, hein, qui vont transmettre les données aux fournisseurs par ondes GSM, c'est-à-dire des ondes téléphonie mobile, hein, vers des antennes relais de proximité dont l'accroissement est fantastique. Hein, il est estimé à 125 000 antennes supplémentaires nécessaires. Ça devient prodigieux. Vous imaginez ? Imaginez.
Quand vous parlez des antennes relais, ce sont ces antennes qu'on voit fleurir, entre guillemets, un peu partout, notamment pour les portables,
tout
les téléphones mobiles.
En fait, ils vont utiliser.
Donc ils vont en faire de nouvelles, c'est ça?
125 000 de plus, c'est une estimation. Mm-hmm. Hein, après, sur le terrain, ils auront, si ça continue, ils auront le champ libre. Mm-hmm. Mais imaginez, Aubenas, avec tout ce système-là, chaque appartement avait des compteurs Linky, ces ondes intérieures et tous ces ondes extérieures. Bref, c'est d'abord un coût énergétique sans précédent. Hein. Je ne peux pas le développer ici, mais on le fera à l'Assemblée. Et puis, ce qui est très grave, c'est qu'on aura là un environnement avec un brouillard électromagnétique de plus en plus dense, quoi, au point d'accélérer l'apparition de maladies très, très invalidantes et l'électrosensibilité de nombreuses personnes. Hein. Parce qu'il faut bien savoir, hein, l'électrosensibilité, on n'est pas électrosensible, on le devient. Et de plus en plus, maintenant, c'est déjà 2% de la population qui devient électrosensible. Au Canada, c'est beaucoup plus. Vous voyez, donc c'est quand même un gros...
On y reviendra avec le témoignage Camille. De Camille qu'on va entendre. Ouais, ouais. Je voudrais revenir sur cette fameuse loi, quand même bien expliquer aux auditeurs de quoi il s'agit. C'est une loi de transition énergétique qui date du 18 août 2015. Ouais. Et c'est cette loi qui prévoit justement le remplacement de tous ces compteurs qu'on dit classiques, hein, ceux qui existent déjà, par ces Linky d'ici 2021.
Voilà.
Donc c'est ça peut-être le paradoxe de cette histoire de compteurs Linky, c'est qu'ils apparaissent dans une loi qui se dit écologique, hein, de transition énergétique, alors que, vous l'avez dit, il y a ce brouillard électromagnétique que ça va induire.
Voilà, tout à fait.
Il y a aussi le coût que ça va...
Fantastique.
Que ça va être, mais il y a aussi le fait que ces compteurs qu'on va enlever sont en état de marche actuellement, les compteurs, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces compteurs? Enfin, il y a beaucoup de choses, j'ai l'impression, qui sont du fait pas du tout en lien avec une transition énergétique.
Enedis n'en parle pas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Du recyclage, mais si ça n'a rien à voir avec les nouveaux compteurs, qu'est-ce qu'on en fait? Bien sûr, on va les mettre à la poubelle. En plus, ils fonctionnent tous. Ce n'est pas un argument de dire on va les remplacer parce qu'ils ne fonctionnent pas. Non, c'est vraiment pour installer ces nouveaux compteurs qui vont pas apporter grand-chose, en effet, par rapport à cette fameuse loi transition énergétique.
Et pour une petite précision, les compteurs actuels, ils ont en gros une durée de vie de 60 ans. Ce qu'on va remplacer, c'est 15-20 ans. Donc il faudra les remplacer beaucoup plus souvent. Et en même temps, tout le matériel qui va avec, les logiciels qui vont traiter les données, etc. C'est un gouffre financier, hein, faut le savoir. Si vous voulez, par rapport à votre question, je vais citer des officiels. Par exemple, savoir que le choix de généraliser le Linky remonte à 2004. À cette époque, il ne s'agissait pas de la loi sur la transition énergétique, mais de la loi POP. C'était une loi de programmation fixant les orientations de la politique énergétique. C'est une loi qui concernait un aspect purement financier. Et d'ailleurs, la Direction générale de l'énergie et du climat, qui est pourtant une fervente supportrice du Linky, a rappelé le 11 mai 2016, le choix de déployer le Linky a été fait non pas pour la transition énergétique, mais uniquement pour les investissements sur le réseau. Olivier Masset, qui est directeur régional de RDF, d'Enedis, hein, le compteur communicant a été introduit par l'Union européenne pour faciliter l'ouverture des marchés. Donc, en plus, je vais vous citer un document de RDF lui-même qui dit « Le programme Linky a pour ambition de créer un standard mondial de l'industrie du comptage évolué. Pour y parvenir, EDF a bâti un système évolutif utilisant des technologies de pointe capables de gérer de très importants flux de données. Nous ne sommes encore qu'aux prémices de l'exploitation de toutes les potentialités de ce compteur. » Le programme Linky est suivi de très près par les acteurs majeurs du secteur de l'énergie, fournisseurs, distributeurs, producteurs, équipementiers, start-up.
Alors, oui. Je vous coupe parce que oui, le temps passe vite. Je voudrais juste préciser, du coup, parce qu'on parle, nous, de RDF, on parle de la France, mais ce compteur, comme on l'a bien compris dans ce que vous venez de lire, ne concerne pas que la France, concerne tous les pays du monde, en fin de compte.
Vous faites bien de le dire, tout à fait.
Et je crois qu'il y a des pays qui ont refusé, non ?
Il y a des pays qui ont refusé, la Belgique, le Canada, le Québec, l'Allemagne. Pas complètement l'Allemagne, mais ils se sont rendus compte que c'était un gouffre financier, que ça ne servait pas le consommateur. Ils ont gardé des compteurs, ils vendent pour des consommateurs très importants.
D'accord.
Voilà. Mais moi, j'insiste là pour dire que ce qui est en œuvre, c'est un projet purement industriel, en fait, qui concerne un développement sans précédent de la possibilité de récupérer chez chacun d'entre nous un maximum d'informations pour le marketing et le contrôle social. C'est le fameux big data, quoi. C'est ça, la base du système.
Hein. On parlait, par exemple, au Canada, c'est déjà depuis 2014, ils ont interdit. Il y a des régions au Canada, en 2014, ils interdisaient déjà l'installation de ces compteurs. D'accord. Ils ont demandé même un retrait obligatoire de 105 000 compteurs.
À cause d'accidents, parce que je crois qu'il y a aussi une question d'incendies qui ont eu lieu avec ces compteurs.
8 incendies en 2 mois au Canada. Tout simplement parce qu'on installe ça aussi sur des équipements qui ne sont pas prévus pour ça.
Voilà. Alors, moi, la question que je me pose, puisque cette installation est en cours en France, est-ce qu'un citoyen, un usager, peut refuser chez lui un compteur ? À qui appartiennent ces compteurs ? Parce que j'ai lu que ça appartenait plus ou moins à la commune, finalement,
oui, commune.
Et non pas à RDF.
C'est plutôt plus que moi.
C'est plutôt plus que moi. Je sais qu'il y a des communes, ça on va en parler peut-être aussi, qui ont refusé en France, sur leur commune.
À ma connaissance, il y a déjà 312 communes qui ont refusé, dans des grandes comme Aix-en-Provence, Caen, etc. Donc ce n'est pas des bricolages.
Hein. Ouais.
C'est pas du bricolage. Ces gens-là, ils font pas n'importe quoi, n'importe comment. Quoi.
Donc une commune peut refuser ?
Oui. Alors ça, c'est des choses qui sont juridiquement en débat. D'accord. Mais, comment dire, énormément d'arguments montrent que la commune est d'abord propriétaire des compteurs. Ça, c'est une certitude. C'est même dit par Enedis. Hein.
Ouais.
Ils sont propriétaires des compteurs. Peut-être, il faut savoir que Enedis, dans son contrat de vente récent de 2015, s'exonère de toutes les conséquences.
Hein ? Oui, en effet, dans les nouvelles conditions générales de vente, en effet, Enedis, c'est 15 juillet 2015 même, s'exonère de tout ça. Ils disent que de toute manière, si jamais ça brûle, eux, ils ne sont pas couverts. Il n'y a aucune compagnie d'assurance à l'heure actuelle qui justement prend en charge ces problèmes-là et en tout cas ne n'assurent pas les garanties, en tout cas ne garantissent pas les dommages causés par tout ce qui est ondes électromagnétiques, etc. Donc ça, d'une manière, il faut le savoir. Donc ça, s'il arrive quelque chose...
Conclusion, si vous avez un problème, si la municipalité a pas refusé, eh bien, tous les problèmes qui vont se présenter, et les gens vont se retourner contre la municipalité.
Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce qu'un usager, oui. un individu, alors, peut lui refuser dans sa maison?
Oui. Tout à fait. Tout à fait. Alors, le Linky de déclaration d'Enedis, le Linky n'est pas obligatoire. Ils font tout pour le rendre obligatoire, bien sûr, avec ce système Big Data, hein, c'est ça l'enjeu. Mais il n'est pas obligatoire pour le particulier. Par contre, si vous n'avez pas de Linky chez vous, mais que le voisin, tous les voisins en ont, vous savez, ça va poser des problèmes quand même, quoi. Et la démarche, oui, la démarche, c'est donc d'intervenir au niveau de la commune pour à la fois qu'elle se protège et à la fois aussi qu'elle permette aux citoyens d'être protégés, quoi. Hein, voilà.
Alors, on a parlé de... Vous avez parlé, Georges, de brouillard électromagnétique. On a parlé de courant porteur en ligne, hein, donc de personnes électrosensibles. On va écouter tout de suite le témoignage de Camille. Camille qui a 31 ans, qui vit en Ardèche et qui est électro-hypersensible.
Je vis dans une petite commune d'Ardèche, dans les environs de Vernoux-en-Vivarais. Je mène une existence très particulière, car je suis électro-hypersensible. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, je ne peux vivre que dans une zone où le rayonnement d'hyperfréquence est très faible, de l'ordre de 0,01 volts par mètre, ce qui est extrêmement rare à trouver de nos jours. C'est en 2008 que j'ai fait pour la première fois un rapprochement entre mon état de santé et l'environnement dans lequel je vis. En effet, à ce moment, je venais d'aménager dans un appartement où les voisins avaient la Wi-Fi. C'était la première fois que j'étais confrontée à cette technologie. J'avais de forts maux de tête dès que je rentrais à la maison, des problèmes de sommeil, et j'ai vu mon état de santé se détériorer petit à petit. J'étais de plus en plus fatiguée. J'ai consulté différents médecins qui m'ont fait faire une multitude d'analyses sans rien déceler de particulier. Aucun ne voulait croire au rapport de cause à effet entre le taux d'émission d'hyperfréquence et mon état de santé. Aucun n'a pu me donner de traitement m'aidant à me sentir mieux. On m'a conseillé gentiment de m'orienter vers la psychiatrie. N'étant pas reconnue par la sécurité sociale, n'ayant donc pas droit à un arrêt maladie longue durée, j'ai dû démissionner de mes différents emplois. À ce moment-là, l'existence de l'électro-hypersensibilité n'ayant pas encore été relayée par les médias, personne dans mon entourage n'en avait entendu parler. Ne trouvant plus d'endroit où je me sente bien pour vivre, j'ai commencé une période que dans le langage des électro-hypersensibles, nous appelons l'errance. À droite, à gauche, dans ma voiture aménagée, avec mon chien Zaza qui m'a aidé à m'accrocher à la vie, j'ai tout quitté. J'ai eu l'impression de tout perdre, mon travail, mes amis, le confort, la vie dans mon village, et de devenir une ombre rejetée par ce monde. Ces années de survie m'ont beaucoup marqué. Heureusement, j'ai fini par être accueillie par des amis, en Ardèche, dans une ferme où j'ai pu mettre une caravane, dans laquelle j'ai vécu un an et demi dans des conditions précaires. C'est en 2014, lors d'un rassemblement, que j'ai rencontré pour la première fois d'autres électro-hypersensibles. On était une centaine, de tout âge, de tout milieu, à se retrouver pour une semaine dans les bois sur une zone blanche. J'étais parmi les plus atteintes des personnes présentes et les plus jeunes. Ça a été pour moi un moment décisif. Je n'étais plus seule, j'étais comprise, d'autres avaient vécu des parcours similaires. C'était aussi la première fois que je me rendais sur une zone blanche, car je n'en connaissais pas. En quelques jours, mon état de santé s'est amélioré. J'ai retrouvé un sommeil de qualité et des forces comme je n'en avais plus ressenti depuis longtemps. Après ce rassemblement, j'ai commencé à expliquer ce que je vivais et j'ai demandé aux gens d'éteindre leur téléphone quand ils venaient me voir. Ce n'était pas une démarche facile, mais les résultats étaient flagrants. Puis j'ai fait des démarches afin d'être reconnue handicapée et de bénéficier de l'allocation d'adulte handicapé. Quand j'ai fini par obtenir gain de cause, ça a changé ma vie. J'étais reconnue, j'existais dans ce monde, on me prenait en compte. Ça m'a aidée à me sentir légitime. En 2014, j'ai trouvé une petite maison à louer dans un hameau de 4 foyers, dans une zone grise où tous les habitants du lieu se sont engagés à ne pas émettre d'hyperfréquence pour que je puisse y vivre. Il y a des panneaux en bas de la route et tous les visiteurs doivent éteindre leur mobile, GPS, tablette avant de venir. C'est une chance incroyable pour moi. J'ai retrouvé le confort, la chaleur, la sécurité. Mon état s'est stabilisé, mais il y a encore trop d'hyperfréquences pour que je puisse aller vraiment mieux. Depuis que je suis venue vivre sur ce lieu, plusieurs personnes du hameau ont vu leur état de santé s'améliorer et ils l'associent au fait d'avoir coupé la Wi-Fi, enlevé les DECT et remplacé par des téléphones filaires, ainsi qu'à l'extinction de tous les téléphones portables. Je vis dans un grand isolement social, je ne sors que très exceptionnellement et je mets un temps plus ou moins long à m'en remettre. J'ai peur car si je dois me faire hospitaliser, les conditions ne seront pas adaptées. Je suis extrêmement fatiguée. Je n'ai qu'à peu près 3 heures d'énergie par jour pour m'activer. Le reste du temps, je me repose ou fais des occupations calmes. À cause de tout cela, je ne me vois pas avoir d'enfant. Je ne peux pas partir en vacances avec mon compagnon, car je ne connais pas de lieu adapté. Pourtant, j'arrive à trouver un petit équilibre et de la joie de vivre. J'aime me promener dans la nature, dans les lieux où je peux, jardiner, lire et faire de la créativité. Mais cet équilibre ne tient qu'à un fil. Une antenne de plus, une maison vide pas loin, vendue et occupée par des gens ayant une Wi-Fi, et je me retrouve à nouveau en errance, sans endroit où me réfugier. C'est pourquoi le déploiement du Linky ou des technologies utilisant des hyperfréquences a un grave impact sur ma vie, ainsi que sur celle de nombreuses autres personnes.
Ce que je voudrais vous demander de préciser, du coup, vous parlez de zone grise. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à une zone blanche, en fait ?
En fait, des zones blanches, il y en a, ça n'existe plus. On parle de zone blanche, c'est un terme médiatique pour que ce soit explicite, mais ça n'existe plus. Donc quand moi je parle d'une zone blanche, c'est un endroit où c'est vraiment un taux d'onde avec nos machines, on capte rien. Parce qu'on a, j'ai des machines à mesurer les ondes, et c'est dans des endroits où je capte rien. Là où je suis, je capte des ondes, mais ça reste à 0,01 volt par mètre ou 0,02 volts par mètre, pas au-dessus.
Et votre association, du coup, c'est quoi alors ?
Elle s'appelle Avec toi sans ondes électromagnétiques. Donc Avec toi, c'est TOIT. Donc Avec toi sans ondes. Notre but est de trouver des lieux de refuge pour des personnes électro-hypersensibles. Accueil, location, vente. Donc on étudie toute proposition. On peut venir avec des appareils de mesure, voir qu'est-ce qu'il en est de l'exposition. Et puis si c'est des lieux juste d'accueil passager, mettre en place des protocoles, avoir un suivi avec les personnes qui viennent. Voilà, parce qu'en fait, à l'heure d'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes électro-hypersensibles qui sont en errance, qui n'ont nulle part où aller, et c'est urgent de trouver des solutions.
C'était donc Camille Merciel pour ce témoignage. Camille qui est électro-hypersensible. Alors, pour cette association Avec toi sans ondes, si vous voulez en savoir plus, je vous donne le numéro de téléphone, c'est le 04 75 61 0501. Je vous rappelle que dans cette émission, nous parlons du compteur Linky en compagnie de Georges Sauret et Frédéric Roux du collectif Stop Linky 07. Il nous reste très très peu de temps. On va dire quand même deux mots sur le côté vie privée de ce compteur Linky, donc qui finalement donnera accès à des données des usagers.
Bien sûr, tout à fait. On l'a vu, d'ailleurs, le compteur et le système sont un système évolutif. Donc, transmission de données par ondes radio, Wi-Fi, ondes téléphone immobile, quel que soit le discours qui se veut rassurant d'Enedis, on est rendu vulnérable au piratage. Faut le savoir, ça. Compte tenu de ce modèle économique de Big Data, par ailleurs, qui repose sur l'exploitation de nos données personnelles, à des fins de marketing et de contrôle social, faut le savoir aussi, dans un contexte de libération des marchés et de la concurrence, comment est-ce qu'on peut croire que ces informations commercialement sensibles puissent être protégées ? Hein ? Voilà ce que j'ai à dire. On va le développer, ça, à l'Assemblée. Hein ?
Quelques mots peut-être sur très rapidement sur comment sont posés actuellement, puisque c'est déjà en cours, ces fameux compteurs. Je crois que Enedis, pour le coup, sous-traite.
En fait, oui, en effet, Enedis n'embauche pas, il sous-traite, donc à du personnel, il ne demande même pas du personnel qualifié, ni même habilité. C'est qu'ils font des annonces même sur des sites comme Indeed, voire même Le Bon Coin, en cherchant des personnes tout simplement capables d'installer ces compteurs. Même pas de formation, moi j'ai vu une annonce, et même pas une formation d'électricien qu'on demande, même de chauffagiste, pour aller installer ces compteurs. Donc d'où par moment des problèmes d'installation de ces compteurs. Donc et ils marchent à la prime.
Incendie en l'occurrence tout à l'heure, c'est quand même des risques.
Oui, des machines à laver qui ont brûlé dès la première semaine d'installation, des vis mal serrées.
Alors, on va terminer en rappelant donc que cette assemblée citoyenne du collectif pardon, Stop Linky 07 aura lieu le 31 janvier à la maison du parc de Jaujac à 18h. Peut-être qu'on peut donner des contacts quand même de ce collectif, à la fois le site internet et puis peut-être une adresse mail.
Alors, une adresse mail, donc stoplinky07@ardèchelibre.org. Ardèche Libre tout attaché, et puis un site qui est en pleine évolution à l'heure actuelle avec des liens. Donc c'est http://stoplinky07.ardèchelibre.org.
Si on tape tout simplement Stoplinky 07, je pense qu'on
normalement,
trouve le site.
Hein.
Et sur ce site, du coup, il y a de plus en plus, au fur et à mesure que vous avez le temps, vous mettez des informations.
Il n'y a pas énormément, il y a l'annonce de notre assemblée. Au fur et à mesure, on va y mettre des documents, mais c'est un énorme travail. On a des gens qui sont compétents, mais pas professionnels. Donc, on va avancer doucement et on y mettra absolument tous les documents auxquels on fait référence. Hein. Voilà.
Merci Georges Sauret et Frédéric Roux. Je rappelle que vous êtes tous les deux membres donc de ce collectif Stop Linky 07 qui organise cette assemblée citoyenne le 31 janvier prochain à la maison du parc de Jaujac à 18h. Merci à Sylvain, à la technique. Et demain, eh bien c'est pas l'oreille indiscrète puisque demain c'est vendredi, donc on se retrouve pour Cinémascope. À demain.
Merci à Franck Ancette, c'est super. Hein.